Bonjour et bienvenue, merci d'écouter Ardiwa 107.5 FM, rdwa.fr. Depuis 2 semaines, je ne vais pas vous le cacher, j'ai mal à ma France. Et comme j'avais décidé depuis longtemps de vous parler de Ken Loach, l'un des cinéastes les plus engagés et les plus intransigeants, avec d'une part les régimes fascistes, mais aussi avec les politiques de rigueur ultralibérale que son pays a subies, notamment sous Margaret Thatcher, je vais profiter de l'occasion pour ouvrir un peu le sujet et vous parler d'engagement au cinéma. Cinéma Cinéma numéro 3, spécial Ken Loach, spécial politique sur grand écran et spécial plus jamais de 20%, c'est maintenant.
Cinéma, cinéma de Saint-Antoine, film en film, je t'ai donné mon existence.
Alors déjà, un petit rappel pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, de qui est Ken Loach. Déjà, je parle de lui parce que dans une semaine, c'est le Festival de Cannes. Et Ken Loach est un réalisateur britannique, il est né en 1936 et il a été 2 fois récompensé par une Palme d'Or à Cannes. La première fois en 2006 pour son film Le Vent se lève et la seconde fois l'an dernier pour son dernier film I, Daniel Blake. C'est un cinéaste engagé. Il ouvre la voie au renouveau des années 80 du cinéma britannique. Son style se veut naturaliste, sans grands effets, la caméra au point ou sur pied. Les focales sont longues, comme pour mettre l'accent sur des détails, sur ce qu'il veut montrer, faire éclater au grand jour. Ses thèmes de prédilection sont d'une part les heures sombres de l'histoire, dans Land and Freedom ou dans Le Vent se lève, mais aussi et surtout la misère sociale au Royaume-Uni ou ailleurs. Ken Loach filme les petits, les oubliés, les sans-grades, sans les angéliser, mais de manière brute et frontale. My name is Joe, I, Daniel Blake sont de bons exemples. Récemment, son cinéma, bien que toujours militant et engagé, a été marqué par un peu plus d'optimisme et de comédie. Looking for Eric, ou La part des anges, offre un souffle plus optimiste, plus rieur, plus espiègle, tout en continuant de montrer le Royaume-Uni dans sa réalité crue, sa violence sociale et en tâchant de se placer du côté des petits. La chaîne Arte a récemment consacré un documentaire à Ken Loach. De nombreux entretiens sont d'ailleurs toujours en ligne et je vous invite à aller les regarder pour approfondir le sujet. Ce documentaire commence par ces mots de Ken Loach. La politique est essentielle. Si vous faites des films qui racontent la vie des gens, qu'est-ce qui détermine le cours de ces vies? Ce sont les conditions matérielles. Ken Loach résume ici parfaitement son cinéma et ça tombe plutôt bien. C'est le cinéma que j'aime par-dessus tout. Celui qui m'a donné envie à moi aussi de faire des films il y a maintenant quelques années. Et que je m'attache à faire de la façon la plus intransigeante possible. Parler des gens, c'est parler de leur vie de tous les jours, de leurs angoisses, de leur joie aussi, mais sans chercher à forcément en faire de grandes quêtes sans les déformer. Elles perdraient de leur puissance, et la politique est essentielle. Faire un film sur ces gens, les porter sur grand écran, en faire les héros, les histoires qu'on raconte, est un geste politique. Leur donner la parole, à eux qui ne l'ont jamais par la fiction et tout ce qu'elle permet de confrontation, d'injustice, de réussite et d'échec, est un geste politique. À condition de ne pas les trahir, de les montrer tels qu'ils sont, sans ajouter du pathos et sans, au contraire, en faire des oies blanches. Les personnages de Ken Loach sont ainsi, souvent désœuvrés, dans un Royaume-Uni qui creuse les inégalités de jour en jour, où la misère gagne, de Glasgow à Manchester, de Liverpool à Newcastle. Ils ont leurs objectifs, leurs quêtes, leurs envies, leurs rêves. Ils ont aussi leur part d'ombre, nécessaire à la construction de bons personnages. Robbie, dans La part des anges, se reconstruit après avoir été un petit voyou ultra-violent, et sa rédemption est longue, difficile. Eric, dans Looking for Eric, a détruit sa famille et s'en mord aujourd'hui les doigts. D'autres réalisateurs ont emboîté le pas à Ken Loach sur ces questions. Au Royaume-Uni, bien entendu, je pense naturellement au film This is England de Shane Meadows, sorti en 2006, qui dépeint de manière extrêmement brutale et froide la montée du sentiment nationaliste dans le nord du pays, au travers le regard d'un petit garçon influençable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. Dans un registre beaucoup plus léger, je peux aussi citer The Full Monty de Peter Cataneo, dans lequel une bande de chômeurs décide de monter un spectacle de striptease pour se faire de l'argent. Un peu partout en Europe et ailleurs, d'autres cinéastes s'attachent à montrer les oubliés et les personnages du quotidien, qui luttent, pour eux ou pour les autres. Les Frères Dardenne, bien entendu, en Belgique, qui sont parmi les plus célèbres, eux aussi plusieurs fois primés à Cannes, mais j'y reviendrai plus tard. En France également, le cinéma dit social permet à de nombreux films de voir le jour. Parmi ceux qui m'ont le plus touché ces dernières années, allez jeter un œil à Welcome de Philippe Lioret, sur un jeune réfugié venant d'Irak, séjournant à Calais et voulant passer en Angleterre. Allez également jeter un œil au film La loi du marché de Stéphane Brisé. Ou encore, dans un autre style, à Merci patron de François Ruffin.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on.
Merci d'écouter RDWA, rdwa.fr, 107.5 FM. Les films de Ken Loach parlent donc des gens, de leurs conditions, souvent difficiles, et ouvrent la plupart du temps sur un contexte global. Mais regardons comment il construit ses scénarios. Comment décide-t-il de regarder le monde, de le raconter? Il le dit lui-même. L'objectif est que le résultat soit à la fois encourageant et dérangeant. Il doit amener à réfléchir plus loin que les réactions épidermiques. Il l'explique ainsi à travers son film « It's a Free World ». À un moment de l'histoire économique du Royaume-Uni, les entreprises ont commencé à embaucher des travailleurs étrangers, parce que c'est moins cher. Ce que nous connaissons en France, avec les travailleurs détachés que la campagne présidentielle a mis au cœur du débat. D'un côté, nous avons donc ces entreprises qui embauchent des étrangers, qui leur coûtent moins cher, et de l'autre, les partis d'extrême droite, voire d'autres partis qui récupèrent leur thème, et les médias qui pointent du doigt les étrangers responsables de tous les maux. Ken Loach observe cette situation et, avec son scénariste, ont une idée. Ne pas raconter le film du point de vue des personnes exploitées, mais plutôt d'un point de vue de celui qui est obligé d'exploiter pour survivre lui-même. L'attention du film vient de ce point précis, un personnage en situation d'urgence sociale qui ne pourra survivre qu'en exploitant lui-même les travailleurs étrangers. Ken Loach déplace le problème et amène ainsi le spectateur à réfléchir plus loin. L'histoire n'est pas celle d'un salaud contre des gentils, l'histoire est celle de la mise en opposition par un système politique de personnes exploitées des deux côtés, prises à la gorge et montées les unes contre les autres. D'un côté, le petit patron qui ne survit pas, obligé d'embaucher des étrangers moins chers et de manière plus violente que ses concurrents pour s'en sortir. De l'autre, des travailleurs locaux qui voient leur emploi confié à des étrangers. Et enfin, la sphère politique, l'ultra-droite conservatrice et une partie des médias qui présentent ces mêmes étrangers comme responsables de la crise et de l'insécurité. Ça vous rappelle rien? Ces situations particulières, Ken Loach les fait le plus souvent incarner par des inconnus, par des visages neufs. Ce qui implique un travail de casting particulièrement précis et long. Le cinéaste apporte une grande importance à proposer des visages inconnus qui peuvent porter ses films plus facilement et sûrement plus loin que des comédiens confirmés. Là aussi, on peut faire un parallèle avec le cinéma des Frères Dardenne. Il y a 2 ans, je participais aux journées professionnelles du cinéma en région Lorraine où je vivais et travaillais alors. Les deux réalisateurs belges animaient une masterclass et sont revenus sur ces questions de casting. Ils nous expliquaient que pour eux, cette idée de filmer des inconnus les comédiens non professionnels s'étaient imposés suite à leur tout premier film. Ce premier essai, de leur propre aveu raté, avait été très difficile à faire et ce pour plusieurs raisons. D'une part, les installations techniques les avaient réellement dérangés. Lorsqu'on est sur un plateau de cinéma, le temps effectif du tournage est très réduit. Il faut énormément de temps pour installer. Chaque département travaille de longues minutes avant la première prise et réajuste souvent entre chacune d'elles. Le chef opérateur cherche son cadre avec l'équipe caméra. On règle aussi les éventuels déports de points à effectuer durant la prise. Les mouvements de caméra. En même temps, le chef électro et son équipe règlent l'éclairage. Le perchman cherche la meilleure position pour se placer et prendre le son, sans apparaître dans le champ, sans créer d'ombre sur les murs qui trahiraient sa présence. Tout cela prend énormément de temps. Et lorsqu'on a passé des mois, voire des années à écrire pour filmer, voir notre temps de tournage réduit considérablement par la technique peut s'avérer extrêmement frustrant. Seulement, la technique, c'est elle qui fait le film, et on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas la supprimer, mais on peut la réduire. C'est le parti pris des frères Dardenne à partir de leur second film. Les installations de machinerie sont trop longues à leur goût, eh bien la caméra sera exclusivement portée à l'épaule, et ainsi de suite. Ce processus, ils l'appliquent également aux comédiens. Une des raisons de leur échec sur ce premier film était qu'ils n'avaient pas réussi à diriger leurs comédiens. Les comédiens étaient des professionnels, certainement très compétents. Eux, c'était leur premier film et ils avaient voulu faire les choses bien. Seulement, ils ne s'en sont jamais sortis. Pour le film suivant, ils décident donc de se passer de comédiens professionnels et d'essayer avec des amateurs. Le moins qu'on puisse dire est que l'idée était bonne. Rosetta, L'Enfant, La Promesse, Le Silence de Lorna, tous ces films proposent des visages neufs qui portent le film peut-être plus loin que ne l'auraient fait des professionnels. À titre personnel, je suis convaincu que cette façon de faire est la meilleure. Bien sûr, les comédiens professionnels sont bons et permettent d'être souples et confortables. Bien sûr, le fait d'employer des comédiens non professionnels induit un plus gros travail de casting, car il ne faut pas se tromper. Mais je suis intimement convaincu qu'un amateur, s'il est bon, de par sa naïveté, sa fraîcheur, le fait de ne pas être rompu à l'exercice particulier de la répétition des scènes, eh bien cet amateur, il saura faire jaillir une étincelle particulière. Les films qui se sont construits avec des non-professionnels et qui vérifient cette idée sont légion. Ils sont souvent des films qui ne touchent plus que d'autres. Pas systématiquement, mais souvent. Et pour le coup, je trouve que Ken Loach, comme les frères Dardenne, fait partie de ces auteurs qui savent trouver le comédien juste pour porter leur histoire. Celui qui sera le personnage, de manière naturelle et proposant peut-être d'autres choses que celles auxquelles Ken Loach et ses scénaristes ont pensé. Il sait trouver les personnes qui ont la sensibilité nécessaire pour donner vie à des histoires de tous les jours et les faire résonner de manière particulière. Un des derniers exemples en date est le personnage de Robbie dans La Part des Anges, interprété par Paul Branigan. Le jeune acteur ressemble à Robbie. Il vient du même milieu social que son personnage. Il était pauvre, chômeur et avait la charge de son fils. Il avait également effectué un court séjour en prison. Des références qui résonnent en lui et qui lui permettent d'interpréter le rôle du jeune père au passé violent avec une justesse rare. Toutefois, et avant une nouvelle pause musicale, il est important de remettre les choses à leur place et de préciser que Ken Loach ne fait pas appel uniquement à des comédiens non professionnels. De nombreux personnages secondaires sont des comédiens confirmés, ou avec lesquels le cinéaste a l'habitude de travailler. John Henshaw apparaît dans La Part des Anges et dans Looking for Eric. Adrian Brody, qu'on a pu voir dans Le Pianiste notamment, est l'un des deux protagonistes de Blood and Roses. Cillian Murphy, qu'on a vu dans 28 jours plus tard, est lui l'acteur principal de Le Vent se lève. Toutefois, ces comédiens sont entourés ou accompagnés, voire accompagnent eux-mêmes des non-professionnels. Et quoi qu'il en soit, la méthode de travail de Ken Loach permet d'outrepasser leur technique de comédien, leur formatage, même si ce terme ne me plaît qu'à moitié. Je vous en dis un peu plus dans un instant, mais avant cela, et puisque l'occasion n'a jamais été aussi belle, je vous laisse avec The Clash, London Calling.
The imitation zone, forget it. for breath, London calling. And I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out.
Vous écoutez toujours Cinéma Cinéma sur RDWA, RDWA.fr, 107.5 FM. Je vous le disais, Ken Loach a plusieurs cordes à son arc, et s'il lui arrive d'employer des comédiens professionnels, il a une méthode de tournage qui lui permet de continuer à filmer la surprise de manière efficace. Une technique qu'il partage, là encore, avec les frères Dardenne. À se demander si ces réalisateurs n'ont pas tout simplement trouvé la bonne méthode pour faire de beaux films. Je reviens un petit peu à la façon dont on fabrique un film de manière générale. On écrit un scénario qu'on ajuste en fonction des recommandations de la maison de production, des différentes relectures, afin d'obtenir la meilleure histoire possible. Puis on fait ce qu'on appelle un dépouillement de ce scénario, c'est-à-dire qu'on le prend et qu'on liste par département tout ce dont on aura besoin en termes de matériel technique, de décors, d'accessoires, de costumes, etc. Ensuite, on réalise un plan de travail qui dit que tel jour, à telle heure, on tournera telle scène. Et c'est là que cela devient intéressant. Pour des raisons évidentes de budget, on cherche le plus souvent à optimiser ce plan de travail. Et une des choses les plus simples à mettre en place, c'est de grouper les décors, pour limiter les coûts de location et les déplacements. Ainsi, si on prend l'exemple d'un film qui se passe un petit peu à Paris, un petit peu à Madrid et un petit peu à Londres, et que les personnages vont et viennent de ville en ville, on va d'abord tourner tout ce qui se passe à Paris, puis on va tourner tout ce qui se passe à Madrid, et enfin on va aller à Londres pour tourner tout ce qui se passe à Londres, sans se soucier de la chronologie. Le monteur remettra ensuite toutes les scènes dans l'ordre lorsqu'il commencera à travailler. Eh bien, Ken Loach et les frères Dardenne ont une approche différente. Ils tournent dans l'ordre du film, et font des allers-retours nécessaires entre les décors. Pour les Dardenne, il s'agit d'une question de confort, de pouvoir changer éventuellement les détails au fur et à mesure du tournage, au gré des événements, des idées. Car en effet, si on tourne dans la méthode courante, il faut respecter le scénario à la lettre, pour que tout puisse se réemboîter dans le bon sens au montage. En tournant dans l'ordre, il faut donc prévoir un budget plus conséquent, puisque le film coûte plus cher sur cette partie du budget, mais il gagne en liberté et en créativité, en possibilité de réagir, d'ajuster le travail. Ken Loach, lui, y voit un autre avantage, plus intéressant encore. Tourner dans l'ordre du film, dans l'ordre de ce qui deviendra l'histoire, permet de ne pas dévoiler le scénario à ses comédiens. Bon, bien entendu, ils savent qui est leur personnage et de quoi parle le film. Mais ils ne connaissent pas les détails du scénario. Et lorsqu'on arrive sur ces détails, lors du tournage, ils les découvrent en direct et l'effet de surprise est réel et non feint. L'exemple type, celui qu'évoque lui-même le cinéaste dans le documentaire d'Arte sur sa méthode, est celui du film Land and Freedom. Tourné en 1995, le film se déroule durant la guerre civile espagnole de 1936. Dans le film, un des personnages se fait tuer durant une bataille. Elle a appris sa future mort avant de commencer le tournage de la séquence, et ses compagnons de jeu ne l'ont découverte que sur le coup, alors qu'elle s'effondre sur le sol. Le fait est que le tournage a débuté depuis plusieurs semaines, que ce personnage est important et que tout le monde s'est habitué à vivre avec elle, à discuter, à rire, à se battre avec elle. Tous les comédiens sont en larmes sur le plateau parce qu'ils comprennent, elle est morte, ils ne joueront plus avec elle puisque le film est tourné dans l'ordre du montage et qu'elle vient de s'effondrer. La technique est simple mais terriblement efficace. Bien entendu, tous les réalisateurs ne peuvent malheureusement pas se le permettre. Ken Loach et les frères Darden sont des gens au travail reconnu et qui peuvent imposer certaines choses. Mais il est toutefois intéressant de se poser la question, quel que soit le projet. Cet effort d'organisation n'est-il pas bénéfique? Ne mérite-t-il pas d'être pensé? De nombreux réalisateurs, et je l'ai déjà dit, font l'erreur de penser leur film au travers d'un budget et d'une méthode type. Je pense que chaque film répond à une économie différente, puisque chaque film a des objectifs différents, en termes de visibilité, en termes commerciaux tout simplement, en termes artistiques également. Les films de Ken Loach s'inscrivent dans un modèle économique qui leur est propre. Ce modèle est proche de celui des frères Darden, mais pas tout à fait le même. Ce même modèle est certainement éloigné de ceux de Tarantino, de Michael Bay, de Steven Spielberg, ce qui nous empêche en aucun cas ces réalisateurs de faire leurs films. Je pense qu'il est une question importante que de nombreux cinéastes et producteurs oublient et qui est « Quel film est-ce que je veux faire ? Quels sont mes objectifs avec ce film ? Quel public est-ce que je souhaite toucher ? Et à partir de là, dans quelle économie est-ce que je dois construire mon projet pour lui donner toutes les chances d'y arriver ?» Enfin, pour terminer ce chapitre sur la méthode de tournage de Ken Loach, et même s'il y aurait encore énormément à dire tant son cinéma est riche, je voulais dire un mot sur la façon dont il filme de manière factuelle. Le cinéma de Ken Loach se veut naturaliste, et un de ses principaux défis, de film en film, est que la caméra s'efface, qu'elle ne soit pas visible. Moi, ça me dérange lorsque je suis au cinéma et que je vois un plan qui pourrait être fixe et où la caméra fait un petit mouvement, un peu pour faire joli, sans justification. Ça m'énerve parce que par ce mouvement, eh bien, la caméra, je la vois, elle me saute aux yeux et je sors du film. C'est terriblement frustrant. De la même façon, les focales extrêmes sont dérangeantes, à mon sens. Celles qui déforment l'image, c'est bien entendu une question de ressenti personnel, mais moi, je n'aime pas ça. Chez Ken Loach, je suis servi. Les focales sont des focales qui s'approchent de l'œil humain. On est au plus large à 35 mm, souvent au 50 ou un petit peu plus long. La lumière est très souvent une lumière naturelle, avec beaucoup de plans tournés en extérieur. Et il est rare que le Britannique ne vienne tourner en studio. Enfin, les mouvements de caméra sont toujours justifiés. Si la caméra bouge, c'est qu'il y a une raison. Soit on est pris dans une bagarre, soit un personnage se déplace et on le suit, soit un objet est lancé, ou que sais-je. Mais si rien ne le nécessite, si la scène présente une discussion ou une action calme, la caméra est fixe. Elle observe à une distance raisonnable, cherchant le meilleur angle de vue, celui qui nous permet de comprendre, de voir, sans aller vers le voyeurisme, ni accentuer une action ou une autre. On entend souvent que ce genre de film est tourné comme un documentaire. Ce n'est pas juste un documentaire, cela peut être mis en scène et n'interdit en rien les effets, les déplacements, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que Ken Loach filme en quelque sorte le réel. En tout cas, il veut que ses films soient perçus comme des films du réel, puisant leur inspiration dans des situations du quotidien, des personnages que l'on connaît, nos voisins, nos amis, des gens de famille, et dans des systèmes politiques et sociaux donnés et connus, que cela soit des films historiques, comme Land and Freedom ou Le Vent se lève, ou des films se passant dans le monde contemporain. L'histoire de Daniel Blake, c'est celle de millions de gens, confrontés à l'absurdité de l'austérité et de l'administration, obligés de chercher un emploi pour conserver son chômage et interdits de travailler par son médecin suite à un accident cardiaque. Ken Loach le suit, nous le montre tel qu'il est sans en faire des tonnes, mais en s'attachant à être fidèle et à ne pas trahir dans un sens ou dans l'autre les millions de gens qui inspirent ce personnage.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
when they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
C'était Working Class Hero, John Lennon. Vous écoutez toujours RDWA, rdwa.fr, 107.5 FM. Working Class Hero, parce qu'au final, le cinéma de Ken Loach est celui-là. Un cinéma des oubliés et des laissés pour compte. On peut regretter qu'il ne soit pas assez montré, qu'il ne passe pas dans assez de salles, que trop peu de gens ne voient ses films et que ceux qui les voient soient en majorité des convaincus de son discours. I, Daniel Blake m'a bouleversé, parce que le film touche en plein cœur, mais je le savais avant même d'entrer dans la salle. Parce que ces problématiques me touchent et sont celles qui me font avancer, travailler et qui me donnent l'envie de faire des films moi aussi. Je réalise des films depuis quelques années et j'ai toujours voulu parler de cela, des immigrés, clandestins ou non, des victimes de la crise, des ouvriers sur le carreau. Et je continue de penser qu'il faut parler de ces gens, leur donner la parole, comprendre ce qui nous amenait là, comprendre pourquoi les inégalités se creusent toujours entre les classes populaires et les grandes fortunes, comprendre que tant qu'on ne fera pas les choses pour redonner de l'espoir, certains continueront d'y trouver un terreau fertile pour les pires idées. Comprendre qu'on a besoin de créer, de montrer les choses pour réfléchir dessus et faire bouger les lignes, pour que la situation de It's a Free World, où d'un côté l'économie pousse à mettre des gens sur le carreau au profit d'autres, moins chers, et qui sont stigmatisés à leur tour, cesse. Comprendre que ce système qui monte les gens les uns contre les autres profite toujours aux mêmes. Il faut faire des films, il faut les montrer et les soutenir. Il faut les montrer dans les salles, mais aussi dans les campagnes, dans les quartiers, amener les films aux gens. Je parle des films parce que c'est mon truc. Mais cela va sans dire qu'il en est de même avec la musique, la danse, la photo, la peinture, le sport et tout ce que vous voulez. Il faut reprendre la main, avec et pour les gens, et se battre pour ça chaque jour au-delà des querelles partisanes. Et il faut que les gens aient la parole, puissent exprimer leurs angoisses et qu'on les écoute, qu'on se comprenne et qu'on reconstruise autrement, mais ensemble. Je fais donc ma part du boulot et je vous invite, comme à chaque fin d'émission, à regarder quelques films de Ken Loach, mais également d'autres choses. De Ken Loach, je vous donne mes favoris. Land and Freedom, Looking for Eric, La part des anges, Le vent se lève, My name is Joe, Bread and Roses, et le dernier en date, I, Daniel Blake. Et puis les autres que j'ai cités, This is England de Shane Meadows, Welcome de Philippe Lioret, Merci patron de François Ruffin, La loi du marché de Stéphane Brisé, et Deux jours, une nuit, Rosetta, Le silence de Lorna et L'enfant des frères Dardenne. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle soirée, un bon film, et on se quitte en musique, et j'ai choisi cette fois-ci Bruce Springsteen, une chanson qui parle des oubliés des hauts fourneaux de l'Ohio, extraite de l'album Ghost of Tom Joad, Youngstown. Bonne soirée sur RDWA. Bonne soirée sur RDWA.
here in Northeast Ohio back in 1803. James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnace, kept him hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. Well, the taconite, coke, and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's wars. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now so you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell.